avec nous vers des contrées inconnues.
Pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Et nous sommes très contre, malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes,
mentionner les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Gaffi nous acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la Delphine, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Mardi 12 octobre, journée de la résistance autochtone à la colonisation, vous écoutez En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bonjour, bon matin et bienvenue à cette deuxième émission de En bas à gauche. Vous êtes avec Leïla, Nicolas, Blandine et Maude. Bon matin. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu nous as préparé ce matin dans la chronique « Expérience en résistance » ?
Bien, ce matin, on va être en direct avec Pascal du projet du Centre social autogéré dans Pointe-Saint-Charles. Alors, il va nous expliquer en quoi consiste ce projet-là, puis pourquoi est-ce nécessaire d'avoir des projets comme ça dans la ville de Montréal et ailleurs dans le monde.
Merci. Leïla, après, tu nous as préparé une chronique sur un mouvement en Colombie?
Oui, en effet, Maude. Je vais vous parler du Mouvement national des victimes contre les crimes d'État en Colombie.
Merci. Et ensuite, pour la chronique Enjeux et mobilisation, Blandine?
Alors, plusieurs informations, mais notamment le procès d'immigration de Danny Villanueva, le frère de Freddy Villanueva qui a été tué le 9 août 2008. Nous serons avec Andréane de la Coalition contre la répression et les abus policiers.
Et pour compléter cette émission, il y aura bien sûr une capsule « Do it yourself »,« Fais-le donc toi-même », préparée par Germaine, ainsi que « L'anti-hebdo ». Alors, on commence tout de suite avec « Existence en résistance ».
Alors, on est en ce moment avec Pascal. Pascal, bonjour.
Allô.
Alors, c'est ça fait une couple d'années que dans Pointe-Saint-Charles, vous travaillez sur un projet qui est le Centre social autogéré. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu dans quoi consiste ce projet?
Ben, tout à fait. L'idée, c'est de faire un peu un squat à l'européenne. Ça veut dire de prendre un espace qui devient accessible publiquement à tout le monde, puis d'installer des activités sociales, politiques puis culturelles alternatives là-dedans. Hein. Donc, offrir un espace là, à des activités là, pour la communauté.
Grosso modo, comment qu'elle a pris forme, cette idée-là, dans le quartier de Pointe-Saint-Charles?
Ben, ça remonte déjà à quelques années. À l'époque, on se battait en 2005 contre le déménagement du casino dans le quartier. Puis, il y a toutes sortes de choses qui sont passées en même temps. Là. D'abord, nous, on avait décidé de... Nous, c'est un petit collectif du quartier qui s'appelle la Pointe Libertaire, avait décidé de proposer un développement alternatif pour les terrains du CN, dans le sens où on voulait pas que combattre des choses que la société dominante, si on veut, voulait nous imposer, mais on voulait avoir des choses à proposer aussi. C'était d'ailleurs une critique là, qu'on recevait souvent à l'époque là, d'être des empêcheurs d'investir en rond puis de développer dans le sens qu'on tout ce qu'on faisait c'est empêcher, mais on n'avait jamais rien proposé, ce qui était évidemment faux. Puis c'est ça, c'est qu'à l'époque, il y avait eu le projet là, d'un éco-village à développer sur des terrains qui ça représente là, à peu près 5 km carrés, les terrains du CN, c'est là qu'on voulait mettre le casino. Et donc, évidemment, là, un développement au complet là-dessus, c'était quelque chose qui était beaucoup trop gros pour un petit collectif comme nous. Mais on a décidé de choisir un de ces aspects-là de notre proposition de développement, qui était un centre social autogéré. Puis on a décidé un peu de lancer le projet. Il y a beaucoup de gens qui sont agglutinés autour de ça. Puis éventuellement, c'est parti de ses propres ailes, il y a 3 ans. C'est maintenant un projet entièrement autonome qui roule de lui-même. Et bon, c'est ça, ça vient un peu de là. Là surtout qu'on avait eu des expériences de développement un peu plus standard, là, plus en termes d'économie sociale dans les années qui avaient précédé. Puis la principale limite là, qu'on se rencontrait, c'était le coût à l'accès à un espace. Les loyers commerciaux sont super élevés dans le quartier et probablement ailleurs à Montréal aussi, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont fermé à cause du coût important que ça représentait. Je prends par exemple le Café de la Petite Gaule qui était une de ces initiatives-là. Le café avait à payer un loyer de 3 000 $ par mois pour un petit local sur la rue Centre dans Pointe-Saint-Charles. Ça finit par l'étouffer, mais le propriétaire, qui est un multimillionnaire là, puis qui gère un grand nombre de bâtiments comme ça, préférait garder le local vide pendant 4 ans plutôt que de baisser son loyer. T'sais, lui, il avait les moyens, il avait les reins assez solides pour payer la dépense sur son bâtiment sans laisser d'autres activités se faire là-dedans. Puis nous, ben, c'est un espace auquel on n'avait plus accès, puis c'est un projet qu'on a perdu, là, qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus pendant 10 ans, puis ça l'a étouffé à cause d'une raison d'argent.
Mais justement, c'est un aspect qui se passe très fortement dans la majorité des quartiers en ce moment, c'est qu'il y a des propriétaires qui possèdent la majorité des édifices, puis qui en font une utilisation purement privée, alors que tous ces édifices-là peuvent avoir des utilités sociales. Puis justement, à ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous faire un peu une courte historique de ce qui s'est passé avec les terrains du CN, puis des bâtiments qui sont là-dessus, puis justement ce que vous proposez par rapport à ça?
Bien, tout à fait. Le quartier, là, les groupes communautaires, là, puis la communauté dans le quartier avait déjà beaucoup de revendications par rapport au développement de ces terrains-là, qui sont hors fonction depuis 2001, si je ne me trompe pas. Le CM a été privatisé en 1993 ou 1994, là, donc ces anciens ateliers-là appartenaient maintenant à une compagnie privée qui a vendu les terrains pour 1 $ entre 2003 et 2005 à un promoteur montréalais qui s'appelle Vincent Chiara, avec le groupe MAC. Donc, 1 $ plus considération secrète. C'est à l'époque, justement, du développement du casino. Là, il y a eu toute une espèce de petit cercle d'amis là, qui a magouillé autour de ça, si on veut, là, autour de Lucien Bouchard, la Société du Havre et tout. Bref, le développement s'est pas fait. Puis ça, ça a comme mis un peu un frein. Là, ça a mis sur la glace le projet de développement du CN, qui nous revient depuis 2-3 ans, là, sous une forme modifiée, donc il n'y a plus de casino, d'hôtel de luxe, puis tout ce qu'ils voulaient faire là, centre de foire. Mais ben c'est ça, là, au début, là, on parlait beaucoup de condos de luxe et de trucs comme ça. Puis une lutte qui s'engageait dans le quartier pour essayer d'avoir un développement qui ressemblait plus à la communauté, qui serait pas qui jurerait pas avec l'environnement urbain autour, tu sais. Et donc, c'est ça, le centre social autogéré, depuis 1 an, s'insère beaucoup plus dans cette lutte-là, parce que, l'année passée, on avait occupé un autre bâtiment pour essayer de l'obtenir, qui était cette fois-là sur le long du canal de la Chine. Ça n'avait pas fonctionné, il avait été évincé, là, en dedans de 24 heures. Mais c'est ça. C'est que là, donc, le centre social autogéré s'insère dans une lutte qui existe déjà depuis longtemps dans le quartier pour avoir un développement, entre guillemets, plus humain, si on veut. Là, donc, avec des diversités d'usages, des services de proximité, puis des différents types d'habitations, donc au moins une certaine forme de logement social, des coopératives, etc.
Puis en ce moment, justement, qu'est-ce qu'il y a comme convergence puis réponse au quartier, dans le quartier plutôt par rapport à ce projet-là?
Le projet du CN ou le projet du centre social autogéré?
Le projet du centre social autogéré.
Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à nos activités. Ce qui arrive, c'est que nous, on ne fait pas que militer pour obtenir le bâtiment. Bien, dans un sens, oui, mais c'est que plusieurs de nos activités prennent la forme de trucs qu'on pourrait faire ou de projets qu'on pourrait monter dans un centre social autogéré si on avait un espace. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent participer à ça. Par exemple, cet automne, là, voilà quelques semaines, on a fait un marché libre, donc où les gens amènent des objets et sont libres de faire du troc sur place. Il est venu plus qu'une centaine de personnes à cette activité-là pour un truc qui avait été annoncé seulement dans le quartier. C'est quand même beaucoup. On avait fait une soirée cinéma, là, une projection de film, encore une fois, sur ces terrains-là le mois précédent. Là, il était venu une soixantaine de personnes environ. Donc, c'est ça, la réponse est relativement positive parce que, en fait, elle est très positive parce que je pense qu'on répond à plusieurs besoins dans la communauté pour des espaces de vie collective, des espaces de vie sociale, culturelle puis politique qui n'y a pas du tout, tu sais, parce que c'est des choses qui se rentabilisent pas dans un marché capitaliste.
Okay. Puis justement, si on fait une comparaison entre votre projet puis le projet que, mettons, Vincent Chiara veut développer, qu'est-ce qu'on peut déterminer par rapport à ce que la population pense de ça, par exemple, quant à l'utilisation des terrains du CN de manière privée?
Bien, c'est sûr que dans le quartier, le feedback qu'on a, c'est que les gens sont pas d'accord avec la façon dont ça se passe. Au-delà du projet, les gens sont pas d'accord avec le fait qu'une seule personne puisse décider de comment une superficie qui équivaut au tiers du quartier va être développée. C'est sûr qu'il n'y a pas que cet individu-là, il y a l'arrondissement, il y a d'autres acteurs, si on veut, autour de ça. Il reste que c'est très loin du quotidien des gens qui habitent le quartier. Puis c'est ça, au-delà du projet, genre, c'est le processus lui-même qui choque, qui est dérangeant pour la population. Après ça, je suis sûr que y a pas grand monde qui serait d'accord avec juste une série de condos de luxe. T'sais, tout le monde a un peu ses besoins, ses revendications, ses désirs, sa vision pour le développement de ça. Puis c'est une bonne chose, en fait, parce que un développement qui serait démocratique, en fait, mettrait en débat toutes ces propositions-là, puis il émergerait quelque chose de ça, mais ça se produit à peu près pas en ce moment-là.
Une des raisons pourquoi avait été concédé les terrains du CN pour $1, c'était parce qu'il était extrêmement contaminé, puis il fallait qu'il soit décontaminé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment cette décontamination-là va avoir lieu, puis qu'est-ce qui est proposé jusqu'à maintenant?
Bien, comment elle va avoir lieu, évidemment, je peux pas en parler. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, puis ultimement, la décision ne sera pas prise par nous ou par la population. Mais ce que le promoteur propose pour l'instant, c'est de gratter environ là, 50 cm ou 1 mètre de sol à la grandeur du terrain, faire des talus qui coupent le bruit là, entre les zones résidentielles et les zones industrielles qui vont se faire développer sur le terrain avec cette terre contaminée-là, et de construire une piste cyclable et des espaces pour jardins collectifs là-dessus. C'est ça le plan de décontamination pour l'instant.
Donc, un plan de décontamination qui n'en est pas un en soi, si on peut voir les techniques qui sont utilisées, puisque la terre est remise en circulation, même si c'est contaminé, même si c'est mise en talus sur les côtés. Puis rapidement, si on veut joindre un peu puis appuyer les activités du centre social autogéré, comment on peut vous rejoindre?
Bien, c'est facile. On a un site internet qui est centre social autogéré, tout en un mot sans accent, .org. Sinon, si vous tapez CSA ou centre social autogéré sur Google, on est généralement dans les premiers liens, voire le premier qui apparaît. Sinon, notre adresse courriel info sur centresocialautogéré.org, toujours sans accent, tout d'un mot. Dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, c'est très facile de nous trouver. Sinon, ailleurs sur internet, là, on est assez visible.
OK. Ben, Pascal, un gros merci pour ton entrevue ce matin.
Ben, merci beaucoup.
Puis on se reparle bientôt. Ciao.
Oui.
Germaine.
Salut.
Oh, ça sent donc bien l'ail chez vous.
Ben, c'est parce que je commence une grippe, là. J'en prends 3 fois par jour.
Viens-nous ici que je t'embrasse.
Ça te dérangerait-tu de te laver les dents avant? Hein? C'est quoi ce pot vert-là? Mais là, dis-moi pas que tu laves les dents avec de l'ail encore.
C'est la pâte à dents.
C'est de la pâte à dents? Ben, j'avais deviné. Où c'est que tu pognes ça, cette pâte à dents-là?
Ben, je la fais moi-même, maison.
Ah, tu fais ta pâte à dents maison!
Je te le dis, c'est très facile.
Donc?
Alors, ça te prend des ingrédients assez simples à trouver. D'abord, du sel, de la glycérine, de l'argile et du bicarbonate de soude.
Bicarbonate de soude.
Ben, tu sais, là, la petite vache.
Ah, voilà.
Donc, tu prends 1 cuillerée à thé de sel, 3 cuillerées à thé de glycérine végétale, 6 cuillerées à table d'argile, verte ou blanche, selon ta couleur préférée, et 2 cuillerées à table de bicarbonate de soude. Ensuite, tu peux mettre 10 à 20 gouttes d'huile essentielle que tu aimes pour le goût dans ta bouche.
Telles que jus de patate, sirop d'érable, betterave.
Là, ça a orange, cannelle, anis, menthe.
Ah, menthe, c'est une bonne idée, ça, pour une pâte à dents. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça?
Il faut que tu rajoutes un peu d'eau, là, pour avoir une texture dentifriceuse. Tu mets ça dans un petit pot. Un couvercle, c'est toujours mieux. Puis tu gardes ça dans ta salle de bain et ne trempe pas ta brosse à dents dedans, là. Prends un petit couteau pour mettre la pâte à dents sur ta brosse à dents, là, pour pas que toutes les bactéries se mélangent et que ça se conserve plus longtemps.
Bien, merci, Germaine, pour tes petits trucs.
Alors, après cette capsule mal enregistrée par Germaine, nous passons à ce qu'a préparé Leïla sur le mouvement des victimes de crimes d'État en Colombie. Pour l'introduire, la chanson très connue de Rubén Blades, Los Desaparecidos.
Thank you.
parler aujourd'hui du Mouvement national des victimes des crimes d'État, une organisation colombienne qui a vu le jour en 2005, et 4 jours après que le gouvernement d'Álvaro Uribe Vélez ait approuvé une loi que le gouvernement a appelé de justice et paix, mais que les victimes et les défenseurs des droits humains en Colombie ont appelé une loi d'impunité. Donc, dans le contexte actuel aujourd'hui en Colombie, les mouvements des victimes des crimes d'État ou Movisé, qu'on appelle aussi, exemplifie une tendance d'actualité qui donne quand même d'espoir dans un environnement ou dans un contexte politique où l'impunité déguisée en vérité, l'indifférence de la population face à violation des droits humains et la polarisation politique et répression font de la quotidianité quelque chose assez pénible. Donc, dans ces contextes particuliers, les Movisé est là pour dire que les victimes des crimes d'État refusent de vivre le silence et en silence leur souffrance. C'est donc de ces mouvements que nous allons parler aujourd'hui. Et donc, si cette organisation a été créée en 2005, ses origines se remontent à la fin des années 90, quand les organisations de droits humains commencent une campagne de lutte contre l'impunité. Et à ce moment-là, les organisations de droits humains et des victimes se sont agroupées autour du projet Colombia Nunca Más, ou Colombie Plus Jamais. Et ces organisations ont documenté plus de 48 000 cas de victimes de torture, de disparitions forcées, des assassinats ou des exécutions extrajudiciaires. Et donc, la question qui s'est posée, qui se pose toujours, c'était comment obtenir justice dans le but de réparer intégralement les victimes, de faire que ces crimes ne se répètent plus, et donc de décourager la criminalité. Les négociations avec les paramilitaires qui se font dans des termes juridiques très généreux pour les victimaires ou les criminels se soldent par 31 687 paramilitaires démobilisés. Et il faut faire attention à ces chiffres parce qu'ils exemplifient bien c'est quoi l'impunité en Colombie. De ces 31 600 paramilitaires démobilisés, 29 000 ont obtenu directement l'impunité sans aucune demande de justice. En fait, le gouvernement a été habilité à leur donner la grâce, amnistie et bénéfices socio-économiques. Ensuite, 1 600 autres paramilitaires ont bénéficié de la loi de justice et paix dont on parlait tantôt. Et par cette loi, et ils ont reçu aussi des bénéfices juridiques et cette loi s'adressait juste à criminels qui avaient commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de lèse-humanité. Et les peines maximales qui a été données pour ces crimes contre l'humanité a été de 8 ans de prison. La justification discursive pour cette générosité juridique envers les criminels a été construite autour de l'idée que la Colombie rentrait dans une étape de fin des conflits et donc une justice transitionnelle s'est faite nécessaire. Les négociations avec les paramilitaires qui se font dans des termes juridiques très généreux pour les victimaires ou les criminels se soldent par 31 687 paramilitaires démobilisés. Et il faut faire attention à ces chiffres parce qu'ils exemplifient bien c'est quoi l'impunité en Colombie. De ces 31 600 paramilitaires démobilisés, 29 000 ont obtenu directement l'impunité sans aucune demande de justice. En fait, le gouvernement a été habilité à leur donner la grâce, amnistie et bénéfices socio-économiques. Ensuite, 1 600 autres paramilitaires ont bénéficié de la loi de justice et paix dont on parlait tantôt. Et par cette loi, et ils ont reçu aussi des bénéfices juridiques et cette loi s'adressait juste à criminels qui avaient commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de lèse-humanité. Et les peines maximales qui a été données pour ces crimes contre l'humanité a été de 8 ans de prison.
la justification discursive pour cette générosité juridique envers les criminels a été construite autour de l'idée que la Colombie rentrait dans une étape de fin des conflits et donc une justice transitionnelle s'est faite nécessaire. Les analyses en termes de justice transitionnelle affirment que les victimes et la société en général doivent pardonner dans le but d'obtenir la paix. Mentionnons quelques problèmes avec cette analyse. Premièrement, la Colombie n'est pas à la sortie d'un conflit armé et social. Bien au contraire, des mesures telles que l'impunité renforcent la dynamique des violences. L'apparition de plus de 20 000 paramilitaires actuellement confirme ces tendances que l'impunité encourage la violence et la criminalité. Puis, en deuxième lieu, les victimes des crimes d'État n'acceptent pas que les pardons et l'oubli leur soient imposés comme étant leur contribution à un certain processus de paix. Pour les victimes, il n'est pas question d'oublier leur douleur, leur souffrance. Il n'est pas question de renoncer à la mémoire et à leurs rêves. Et ils veulent plutôt lutter pour que leurs idées soient prises en compte, que l'image sociale et politique des victimes de la violence soit dédommagée. On peut dire que la réponse des victimes des crimes d'État à la question du pardon se résume bien dans le slogan Nos duele recordar, pero más nos duele olvidar. Où il est très douloureux de se rappeler, mais c'est pire encore d'oublier. C'est un slogan des communautés de Bajo Atrato dans les Chocos colombiens que nous voulons. Vous laisser comme point de réflexion pour cette semaine et sûrement que nous reviendrons sur ce sujet des victimes des crimes d'État et dans les semaines qui suivent. Merci.
A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Testigo por un asunto que es nada más conmigo y fui a entregarme hoy por la tarde y ahora di que no saben quién se la llevó.
Ici Miles Taylor de Jazz Boulevard. Je vous invite à me rejoindre tous les vendredis à minuit sur la grille anglophone de Radio Centre-Ville pour 2 heures de musique et entrevues du monde de jazz. À vendredi!
Vos émissions préférées sont de retour à Radio Centre-Ville. Au bel âge, traite des préoccupations des aînés les mardis de 10h à 11h. Tout de suite après, de 11h à 11h30, Je vote pour la science vous informe de l'actualité scientifique. Portrait danse est de retour les jeudis de 13h à 13h30. Découvrez nos nouvelles émissions. En bas, à gauche, fait le tour de l'actualité internationale les mardis de 9h à 10h. Bouffée d'air frais vous parle d'horticulture les mardis de 13h à 14h. Voix francophone, les vendredis de 11h à 11h30, jette un coup d'œil sur l'actualité et la musique francophone. Écoutez-nous au 102,3 FM ou sur notre site radiocentreville.com.
Le 14 novembre, au Théâtre Maisonneuve, le Festival du Monde Arabe de Montréal présente les Cowboys Soufis. Des Américains pur laine du fin fond du Texas transgressent les dogmes, galvanisent la foule et électrisent la scène en chantant un islam enjoué et folâtre. www.festivalara.com.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Approchez, approchez, grande vente de paillettes du système public. Tout doit être vendu. Cette semaine, 2 pour 1 sur la privatisation. Achète une école, on t'en donne une à moitié prix. Achète un hôpital en PPP, obtiens un CLSC que tu peux transformer en clinique privée. Dépêchez-vous, il ne reste que quelques centres d'accueil pour personnes âgées à vendre. Les vieux, c'est payant, et plus avant, plus il y en a. Mesdames, profitez de nos assurances privées à taux préférentiel afin de financer votre prochain accouchement. Et n'oubliez pas, l'appel d'offres pour la gestion privée de l'eau se termine le 17 octobre 2010. Hantez-vous!
On a assez étiré l'élastique. Le démantèlement des services publics par le recours à la privatisation et la hausse de la tarification doit cesser. Du 12 au 17 octobre, marchez avec nous.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Andréane impliquée dans la CRAP, Coalition contre la répression et les abus policiers, et ici pour nous parler de la campagne contre la déportation de Dany Villanueva.
Oui, c'est une campagne qui a commencé pendant l'enquête publique, en fait, qui a lieu encore en ce moment sur la mort de Freddy Villanueva. On se rappellera que Freddy était tué par les balles d'un policier, nommément Jean-Loup Lapointe, le 9 août 2008. Et on se rappellera aussi les émeutes qui ont lieu à Montréal-Nord là, le 10 août, la soirée d'après. Donc, il n'y a pas eu d'accusation envers Jean-Loup Lapointe, ni Stéphanie Pilote, sa coéquipière, qui était là cette journée-là. Ce qu'il y a eu, par contre, c'est une enquête publique qui a toujours lieu en ce moment. Une enquête publique dont le coroner en charge n'a aucun pouvoir, lui non plus, en fait, de porter des accusations. Vraiment, le pouvoir du coroner dans l'enquête, c'est de faire des recommandations. Ce qui est ressorti, en fait, ce qui est intéressant avec cette enquête-là, c'est que tout le dossier, toute la preuve de la police, de l'enquête de la Sûreté du Québec, des déclarations des témoins, civils, policiers, enquêteurs du service de police de la Ville de Montréal aussi, est ressorti. Donc, on a eu accès à beaucoup de documents. Ce qui est arrivé avec Dany, ce qui est surprenant, en fait, c'est que tout de suite, quand que le cas a commencé à être médiatisé, quand la famille s'est battue pour avoir une enquête publique, tout de suite, il y a eu une espèce d'acharnement médiatique contre Dany, qui est le frère de Freddy. Il était là cette journée-là, il a vu son frère mourir devant lui. C'est lui, en fait, que le policier Lapointe voulait arrêter. Puis cet acharnement-là, dans le fond, ça s'est traduit par exemple, un Richard Martineau qui disait que si Freddy était mort, c'était de la faute de son frère, parce que son frère a un passé de délinquance, tu sais. Puis dans le fond, c'est à cause de ça. Bon, fouillez-moi pour le rapport logique là-dedans. Mais fait que cet acharnement-là, ça s'est traduit dans l'opinion médiatique. Puis envers l'État aussi, on se rappellera que c'était Jacques Dupuis dans ce temps-là, le ministre de la Sécurité publique, puis que quand il y avait eu l'enquête publique, il avait refusé de fournir, de donner les frais en fait pour payer les avocats, alors que à ce moment-là, les policiers avaient droit à 6 avocats payés par l'État. Finalement, on s'est battu, la famille s'est battue pour avoir ces frais-là, et ils ont dû nous les céder. Fait que nous, on participe à cette enquête-là depuis le début. Puis ce qu'on a vu, Outre l'acharnement médiatique, c'est que ce qui est arrivé, en fait, là, le policier Lapointe devait témoigner à l'enquête parce qu'il y a des parties intéressées, ces gens-là témoignent. Les premiers témoignés, c'est ceux qui étaient présents lors du drame, ceux qui étaient présents directement sur la scène, les témoins ensuite, plus les badauds autour. Puis le premier qui a témoigné, c'est évidemment Jean-Loup Lapointe. Puis il a témoigné en janvier, non, il a témoigné en février. Puis on savait que l'ordre des témoins, en fait, était donné à l'avance. Ça faisait des mois qu'on savait que c'était Danny qui allait suivre Jean-Loup Lapointe. Puis donc il allait témoigner à peu près en mars. Puis surprenamment, quand le ministre de la Sécurité publique qui a décidé de déférer Danny devant la section de l'immigration a pris cette décision-là en janvier, lui a donné une date exactement au moment où il devait témoigner à l'enquête publique. C'était vraiment la date où à peu près Danny devait commencer à témoigner, ce qu'on avait prévu. Finalement, Danny a témoigné beaucoup plus tard parce que le témoignage de Lapointe a duré 10 jours. Fait que Danny n'a pas eu à se présenter à l'immigration, mais quand même, le coroner a dû émettre un subpoena pour l'obliger à se présenter à l'enquête pour, dans le fond, un peu contrecarrer les plans de la section d'immigration. Puis ce qu'on sait aussi, justement, par rapport à ça, c'est que Danny, ce pourquoi il est déféré devant l'immigration pour un renvoi du Canada à son pays d'origine qui est le Honduras, c'est pour une accusation, en fait, une infraction criminelle pour laquelle il a déjà été condamné, et ce, en 2006. Donc, ça fait un petit bout. Il a déjà purgé une peine d'emprisonnement de 11 mois pour ça. Donc, ce qu'on voit ici, non seulement l'ingérence, mais en plus l'immigration qui applique la double peine pour laquelle Danny, dans le fond, il a déjà purgé sa peine. Fait qu'on voit que non seulement il y a des délais déraisonnables, ça fait 4 ans pour que Danny a été condamné pour ça, qu'il a purgé sa peine, mais en plus, les délais déraisonnables, on peut se poser des questions sur pourquoi ça arrive là, pourquoi ça arrive au moment où la famille est sur le spot médiatique, pourquoi la famille, tu sais, pendant que la famille vit son deuil de façon publique à l'enquête, pourquoi ça arrive en plein milieu de l'enquête publique, on peut se poser des questions. Puis, dans le fond, c'est ça, en gros, là, l'historique du dossier. Puis, pour les trucs un peu plus, les actions qu'il y a eu, c'est que Danny a eu une audience à date. Puis cette audience-là, c'était le 21 avril. Il y a eu un rassemblement à ce moment-là. C'était un rassemblement devant le complexe Guy Favreau. Et puis, c'est une audience qui a duré 5 minutes. Le commissaire, c'était Louis Dubé. Puis, ça a duré 5 minutes. Dans le fond, il a ordonné le renvoi. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que l'avocat de Danny a tout de suite déposé un appel la journée d'après. Donc, ce qui a topé toutes les mesures pour l'instant. Fait que depuis ce temps-là, on est en campagne pour des appuis, pour que les gens disent ce qu'ils pensent par rapport à ça, pour qu'on ait des appuis pour empêcher le renvoi de Danny. C'est pas le seul dans sa situation. C'est pas le seul non plus qui est dans la situation d'être doublement condamné pour un geste pour lequel il a déjà payé la société. Puis, c'est ça.
Puis, on rappellera peut-être que donc Danny avait un statut, il est arrivé très jeune ici avec sa famille, il est arrivé du Honduras, puis il avait un statut de résident permanent, c'est-à-dire qu'il était un immigrant accepté, reçu, fait que c'est quand même retiré un statut accepté. Donc, il y a quand même des choses par rapport à ça. Puis là, si je comprends bien, il y a une prochaine audience avec un rassemblement qui est donc mercredi.
Oui, ça va avoir lieu le 13, mercredi. Nous, on appelle les gens à venir se rassembler avec nous à 8h30. L'audience commence à 9h, mais évidemment, on va être là avant. Puis cette fois-ci, on va encore essayer de rentrer, en fait, avec Danny et la famille dans la salle où ça va avoir lieu. La dernière fois, on n'a pas réussi. Ils nous ont bloqué l'accès, ce qui n'est pas une procédure habituelle. Puis c'est ça, comme la dernière fois, il va y avoir les appuis des discours de gens qui appuient. Il va y avoir la famille, c'est ça. Donc, c'est important de montrer un appui parce que sinon, le gouvernement va se sentir légitime de faire qu'est-ce qu'il fait.
Qu'est-ce qu'on attend, en fait, mercredi? Mercredi, c'est une audience pour écouter l'appel de l'avocat. C'est quoi les enjeux? C'est quoi les possibilités?
En fait, c'est même pas une audience pour écouter l'appel, c'est une audience pour fixer la date de l'appel. Donc, c'est vraiment ça pour le moment. En tout cas, c'est les informations qu'on a. Il se peut toujours qu'il se passe quelque chose, mais ça va être vraiment fixer la date de l'appel. Donc, c'est juste d'assurer une présence, tu sais, pour montrer qu'on est toujours là, puis la date de l'appel, ensuite de ça, va être fixée, puis on va refaire un rassemblement à ce moment-là.
Alors, c'est à 8h30 devant le complexe Guy Favreau encore.
Oui.
En face du complexe Desjardins sur René Lévesque. Donc, toutes ces choses-là continuent à coexister en même temps, c'est-à-dire le deuil de la famille, l'enquête publique, les procédures publiques sur le sujet, les mobilisations. Il y a notamment d'autres choses qui s'organisent, comme une marche commémorative pour les familles de victimes, dont la famille Villanueva fait partie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Je pense que c'est les 22 et 23 octobre prochains.
Oui, c'est ça. Il va y avoir une vigile le 22 et il va y avoir une manifestation familiale le 23. Dans le fond, pourquoi c'est ces dates-là qui sont choisies? C'est que c'est la journée contre la brutalité policière aux États-Unis. Puis, c'est plusieurs victimes qui sont rassemblées pour, dans le fond, appeler non seulement à arrêter la brutalité policière, mais il y a des revendications plus concrètes aussi, notamment la famille Registre, qui ont perdu un fils qu'il aime, qui a été tué par la police aussi à Côte-des-Neiges. Il y a aussi la famille Bénis, Mohamed Anas Bénis, qui a été tué aussi par les policiers. La famille de Bénis attend, en fait, sont comme en attente. C'est particulier avec cette famille-là parce que normalement, il devrait y avoir une enquête publique bientôt qui devrait avoir lieu sur la mort de Mohamed Anas Bénis parce que il y a le juge Champagne qui a décidé qu'il y aurait une enquête publique. Sauf que on est en attente de savoir si la fraternité des policiers va pas encore essayer de bloquer puis aller en appel pour empêcher cette enquête-là. Donc, il y a la famille Anas Bénis aussi. Il y a la famille Tolley. Mais c'est ça, puis c'est important d'être là pour supporter ces familles-là. Dans le fond, ça va avoir lieu très bientôt. Puis c'est intéressant aussi parce que ça fait un petit moment là qu'on pense à essayer de faire en sorte qu'il y ait un mouvement interfamilial, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles là, tu sais, qui ont eu des jeunes, des frères, des sœurs qui ont été tués par les policiers, qui ont jamais obtenu justice parce que les policiers ont jamais eu d'accusation, tout simplement, aussi simple que ça. Le coroner, en fait, pas le coroner, excusez-moi, le directeur des poursuites criminelles et pénales, souvent, la couronne fonctionne avec les policiers. Fait que là, c'est vraiment un rassemblement là, de plusieurs familles. Ça fait longtemps que on veut voir ça, là, parce que c'est important de s'associer pour mener la lutte plus loin encore.
Alors, pour avoir plus d'informations, votre site web lacrap.org, notamment, on y trouve l'horaire de l'enquête publique aussi pour venir appuyer, donc notamment le rassemblement pour l'audience d'immigration de Dany Villanueva, mais aussi les différentes dates d'enquête publique. Il y en a encore qui s'en viennent.
Il y en a encore en ce moment. La personne qui va recommencer à témoigner la semaine prochaine, c'est Bruno Poulin. C'est l'expert de Nicolette en utilisation de la force. Lui, assiste à toutes les journées d'enquête. Puis c'est, ma foi, fascinant comment on peut justifier le meurtre d'un jeune. Je vous invite à venir pour démontrer votre désaccord.
Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Nous étions avec Andréanne de La Crap, le site web lacrap.org, pour avoir plus d'informations. Et rendez-vous au complexe Guy Favreau, 200 René Lévesque Ouest, à 8h30, mercredi. Mercredi 13. On continue en musique avec la chanson de hip-hop collective Villeneuve qui est sortie peu après la mort de Freddy.
Tiré par un agent du SPVM. Il était bien chill dans territoire hostile, mais il est devenu victime à tête d'un projectile. What the fuck, c'est les coches, c'est la population. Aucune relation, aucune communication. Fait que ça dit aussi qu'il sous terre, misère. Je le connaissais pas, mais je le prends comme si c'était mon petit frère.
La justice et la conservation, repose en paix. Condoléances à la famille, désolation et respect. Comme beaucoup réalisent la compétence policière, a-t-on besoin d'un drame pour éveiller la conscience populaire?
Plein d'autorité, le prohibé, la minorité. Dans la rue, y'a trop d'abus, je condamne la société. Y'a tant que jeunes meurent, condoléances aux jeunes mères. La jeunesse, jeunesse, qu'en pensez-vous, monsieur le maire?
Ici, on crache pour mieux respirer. Ici, on marche pour pas oublier. On jouait dans le parc l'été, chantait liberté. Mais les jeunes ont changé. Ici, on crache pour mieux respirer. Ici, on marche pour pas oublier. On jouait dans le parc l'été, chantait liberté.
L'attention qui s'installe me rappelle ce temps glacial. La ligne MS entre le profilage criminel et racial. La haine peut se lire sur leur expression faciale. À part ça, je peux pas prendre une position qui était partiale. Harcelé par la police, martelé par la justice. J'entends des mères crier au loin, arrête d'écœurer mon fils. Je rends hommage à la famille, pas besoin de me remercier. Laissez-moi m'exprimer comme l'a fait Rémi Mercier.
Voici le nouvel ordre, la brise d'automne est remplacée par une crise d'octobre. Oublie les incendies, notre force est légitime. Le ghetto, c'est le résultat des commandements de Willy Lynch. Oui, c'est vrai qu'on avait vécu Napoléon Bonaparte. Mais du cash, est-ce que de Napoléon Bonaparte? Ici, la ville est tendue, nous vivons le pire des dangers. Visionné comme Steve Wonder, de l'horizon de Stephen Harper.
Ici, on crache pour mieux respirer. Ici, on marche pour pas oublier. On jouait dans le parc l'été, chantait liberté. Mais les jeunes ont changé. Ici, on crache pour mieux respirer. Ici, on marche pour pas oublier. On jouait dans le parc l'été, chantait liberté. Non mais tout a changé.
Mais pas les marques de sang sur le ciment. Mes pleurs dans le bar, ma mère seule survivant. Exclue de la table, les émeutes dans seul bois. Mientras que fait le ciel en flairie, observa. Un cierge, une lame, un prêt, les médias. Appel, on calme, mais les excuses ne viennent pas. Que toute famille sait pas. Quelle réponse appelle la nuit, c'est qu'on a fait comme on a que sur notre groupe.
Le quartier souffre et porte deuil dans son ventre. La famille pleure en silence pendant que la tension augmente. Les jeunes sont frustrés à un point que leur vie perd son sens. Car tous savent qu'on arrive à rien quand on agit par vengeance.
On souhaite de tout que ça aille.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM et vous écoutez l'émission En bas à gauche. Alors, on a mentionné au début d'émission que aujourd'hui, 12 octobre, c'est la journée de résistance autochtone. Leila, peux-tu nous expliquer d'où vient cette date symbolique pour la résistance autochtone?
Oui, Maude, en 1492, les Espagnols sont arrivés en Amérique latine et 500 après, et donc en 1992, il y avait comme une tendance à vouloir fêter ou célébrer cette 500 décolonisation. Et donc, les Autochtones et plusieurs groupes sociaux en Amérique latine ont décidé de refuser cette célébration et de prendre cette journée pour faire une journée de résistance qui symbolise on n'est pas pour la célébration, mais on est contre la colonisation. Et donc, à partir de cette date, est tenue comme un jour assez important pour les mouvements de résistance en Amérique latine.
Et aussi, on rappellera donc que l'action de grâce qu'on vient de passer en étant content d'avoir trois jours, Thanksgiving, est une fête en fait qui a été créée dans le même, dans un esprit colonial pour fêter et remercier Dieu d'avoir donné cette terre vierge sans personne dessus. Donc en niant complètement que c'est en pillant et en assassinant et en faisant un génocide des Premières Nations à travers les Amériques que cette merveilleuse terre a été donnée aux blancs colonisateurs.
on pourrait enchaîner avec la critique culturelle, justement.
En bas à gauche, chronique culturelle.
Alors, je profite de la journée du 12 octobre, journée de résistance autochtone, pour parler d'un film qui vient pas de sortir. C'est pas un nouveau film, mais c'est un film que je considère excellent pour relater de façon historique la résistance autochtone, pas durant la colonisation armée, sinon durant la colonisation du gouvernement par le biais de ses politiques de mise en réserve, si on peut dire, des Autochtones. Alors, le film s'intitule « Bury My Heart at One Denis ». Il est sorti en 2007, réalisé par Yves Simoneau, et qui était basé, en fait, qui est basé sur un livre plus ancien qui est sorti dans les années 70 de l'auteur américain Dee Brown. Alors, le film « Bury My Heart at One Denis » relate la résistance des peuples Sioux, donc dans les États du Dakota, contre l'implémentation des réserves sur leur territoire sacré. Alors, peut-être un instant historique qui est plus connu, c'est celui du massacre de la montagne Black Hills, où ont été décimés des dizaines de centaines de résistants Sioux par l'armée américaine qui colonisait alors les territoires pour se rendre jusqu'à la montagne Black Hill, qui renferme une réserve d'or. Donc, le film a un cadre historique. On suit l'histoire de Charles Eastman, qui est un jeune Sioux qui est arraché à sa communauté par... Ben, en fait, qui est repris par son père, qui a été converti à la religion chrétienne et qui veut donner à son fils une éducation chrétienne. Donc, le jeune Charles va être élevé par les bonnes sœurs catholiques, j'imagine, par les bonnes sœurs chrétiennes, et va développer... ce qu'on appelle le savoir occidental. Il va être présenté par les amis des Indiens aux États-Unis comme le premier exemple d'assimilation, donc une civilisation réussite. Regardez ce petit Charles Eastman qui est né dans une réserve, dans une communauté amérindienne et qui maintenant est docteur et peut parler en public en anglais et a des connaissances scientifiques occidentales. Et on va retrouver également à côté de Charles Eastman, Henry Durr, qui est un sénateur américain fin du 19e siècle, architecte de la politique états-unienne sur les réserves indiennes. Donc, Henry Durr va recruter Charles Eastman pour faire accepter aux Sioux la politique de réserve. Et donc, Charles Eastman va se retrouver à négocier entre le sénateur américain Henry Durr et Sitting Bull, le légendaire chef Sioux, qui a été le dernier chef Sioux à rendre les armes face à l'armée états-unienne et à accepter finalement la politique de réserve. C'est un film qui, moi, m'a beaucoup ému, que j'ai vu trois fois d'ailleurs, parce que c'est pas tant les actes violents de combat. Oui, il y en a. Oui, il y a eu des massacres. Mais c'est plutôt l'assimilation par la politique des réserves. Par exemple, un moment que j'aime beaucoup dans le film, Charlie Eastman est en train de traduire un discours vers le Sioux. Et dans la logique des réserves, ben, c'est de donner un lopin de terre à chaque Indien pour qu'ils s'établissent et commencent à cultiver. Et puis Charles dit, j'ai aucun mot dans ma langue pour dire donner de la terre ou s'approprier la terre, ou on parle juste d'une terre qui est à tout le monde, donc je suis incapable de traduire ça. Et puis, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la réflexion de Charles Eastman, qui pense au début aider son peuple par des missions civilisatrices et qui se rend compte que son peuple est complètement... désacculturé, qui ne sait plus chasser, qui commence à élever du maïs, à cultiver le maïs, alors que pour son peuple, le maïs, ça servait seulement pour les vaches ou pour les troupeaux qui chassaient. Alors, on voit vraiment le début de la réalité actuelle de la mort d'un peuple au niveau culturel et toute l'histoire de l'implantation des réserves.
Alors, on prend une petite pause musicale avant l'anti-hebdo, avant de terminer cette édition de En bas à gauche.
Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Divina mi sabiduría, allí en la enseñanza. Tu
cuando hablo de Babilón. Quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía y una gran cuota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población, favelas, canteriles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. Rebeldes somos revolucionarios, no crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, no es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta.
Alors, c'est maintenant le défi anti-hebdo, parce que Blandine a à peu près 2-3 minutes pour nous raconter les événements de la semaine. Bonne chance, Blandine.
Alors, j'espère que vous avez Internet à disposition pour aller complémenter les informations. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est le lancement de la Marche mondiale des femmes. Alors, vous avez des dizaines, littéralement, d'activités à travers le Québec toute la semaine qui convergent vers une grande manifestation à Rimouski dimanche prochain, si vous aviez envie d'aller faire un tour dans le bas du fleuve. Alors, toutes les informations, ffq.qc.ca. Aujourd'hui, c'est la journée de la revendication sur l'augmentation des prestations sociales avec un minimum garanti pour tout le monde et l'abolition des catégories à l'aide sociale. Puis il y a une journée thématique toute la semaine. Alors, plus d'informations, ffq.qc.ca. Comme on vous le mentionnait plus tôt, demain à 8h30, on vous invite à venir soutenir la famille Villanueva pour empêcher la déportation de son fils. Alors, rassemblement à 8h30 au 200 boulevard René-Lévesque-Ouest devant la commission d'immigration. Jeudi 14 octobre au cinéma Impérial, en même temps que le procès du Canadien Omar Khader doit reprendre à Guantanamo, donc le 18 octobre, lundi prochain. Jeudi soir, on vous propose la première de « Vous n'aimez pas la vérité, 4 jours à Guantanamo » de Patricio Henriquez et Luc Côté, lors de la 39e édition du Festival du Nouveau Cinéma. Alors à ne pas manquer, vous pouvez aller sur le site du Festival du Nouveau Cinéma pour voir toute la programmation, il y a énormément de choses disponibles. Vendredi, le 15 octobre, Lénine sur les questions nationales et coloniales. Contrairement, c'est un événement dans le cadre des soirées de discussion de la maison Normand Béthune au 1918 rue Frontenac. Vous pouvez les appeler 563-1487 dans le 514. Et c'est aussi du 15 au 16 octobre, donc en fin de semaine, vendredi soir, la 21e nuit des sans-abri à Montréal. Alors ça va être au comité social Centre-Sud, au 1710 Baudry, métro Baudry. Ça commence à 18h vendredi soir et ça finit à 6h du matin. Donc ça va être une des 23 villes du Québec où il va y avoir des activités toute la soirée. Alors je vous invite à aller faire votre tour, soit sur le site web nuitdessansabris.ca, mais aussi sur le terrain à Montréal au 1710 Baudry. Alors c'est ce qui conclut cette édition de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. On vous laisse avec le bel âge pour la suite de la programmation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter le contenu de l'émission sur le site de Radio Centre-Ville, radiocentreville.com. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836, 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Et parce qu'il casse cet animateur.
On dirait qu'il est familier avec le cinéma.
Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé. Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent en être partagées.
Oh, ah ben là, tu fais une surprise!
Et quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste.
Non, mais vous avez failli mourir.
Oui, une heure de cinéma.
Derrière l'image, avec François Morando, Pierre Pageau et Guy Ménard. Vendredi, 15h.
Avec la prudence, pas d'accident. Organisez une marche dans votre voisinage et apprenez aux enfants à repérer les dangers. Commandez sans frais votre pochette La Marche axée sur la prudence au 1-800-250-3030 ou visitez le site amputedeguerre.ca.
Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.